Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Clotilde de Brossolette.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravie de vous retrouver. Alors, vous êtes une femme avec un franc-parler. Hein. Une femme, on peut dire, c'est de votre nature, votre éducation, votre culture. Et puis, c'est vous, une femme qui a besoin de s'engager finalement pour les autres. Et au fond, un engagement aussi en cité. Alors, hors antenne, là, on parle aussi de cette difficulté d'être, je dirais, alors, bon chrétien ou bon homme politique ou bon candidat. Enfin, on va essayer d'être de bons chrétiens. Être chrétien en cité aujourd'hui, le paysage est compliqué pour lui, l'engagement est compliqué. Comment est-il vu, perçu et accueilli? Et quel est son profil de ce chrétien engagé parfois dans sa cité?
Je pense que les chrétiens dans ces quartiers difficiles, on les a appelés banlieues, cités, quartiers, on ne sait pas très bien comment les qualifier. En fait, ils sont à l'avant-poste de la mission. En fait, ce qu'ils vivent aujourd'hui, alors moi, je n'habite pas exactement dans la cité, donc je n'ai pas tout ce poids sur les épaules et toutes ces blessures et ces violences à subir. Donc j'en parle avec beaucoup de, voilà, j'espère, d'humilité vis-à-vis des gens de ma paroisse qui, eux, sont plongés au cœur de la cité. Je pense qu'ils sont aux avant-postes parce que, déjà, dans nos paroisses de cité, se vit un catholicisme de la migration. Et qui est quand même l'avenir de notre pays quand on voit la situation aujourd'hui. Et un catholicisme qui est porté pas uniquement par une petite minorité de gens issus de Français, issus des catégories socio-professionnelles les plus supérieures, voilà, de ce catholicisme CSP+, des grandes métropoles, mais bien d'un catholicisme issu des milieux populaires, multiculturels, où se joue véritablement l'universalité de l'Église. Donc ça, je pense que l'Église, en tant qu'institution, aurait intérêt à réfléchir spécifiquement à ces pastorales-là. Ensuite, être chrétien en cité, c'est être doublement invisibilisé. Tout d'abord parce que quand on parle de ces quartiers, on ne parle jamais de la majorité des gens, de ceux qui vivent, ce dont je parlais hier, qui essayent de vivre tant bien que mal, de ces parents qui essayent d'éduquer leurs enfants malgré des difficultés sociales, économiques, culturelles, des problèmes de langue. Voilà, moi, dans ma paroisse, quand j'étais responsable pastorale des enfants, j'avais chaque année des parents qui ne savaient pas lire et écrire. Ça existe encore en France, oui, ça existe. Ou des gens qui ne parlaient pas français et qui venaient me payer le catéchisme en pièces de 2 euros. Et à qui je disais, mais on va réduire, c'est bon. Non, non, et pour qui c'était important. Donc voilà, de ces gens, de ces honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers. Et puis quand on est chrétien, on est aussi encore invisibilisé parce que quand on parle de ces cités sous l'angle religieux, on ne parle que de l'islam. Ce sont des quartiers avec la montée d'un islam politique fort, souvent sous influence des frères musulmans. Et là encore, il y a des musulmans de bonne composition, je dirais, qui sont écrasés par cette image. Et puis il y a les chrétiens, dont on parle très peu. En fait, les cités, c'est les jeunes qui mettent le feu et qui sont musulmans. On les souvent, dans les médias, ils sont souvent réduits à ça. Donc en fait, être chrétien en cité, c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui porte votre voix, et une voix d'une recherche du bien commun. Pourtant, je pense que les chrétiens dans les cités, et je parle des chrétiens, pas que des catholiques, je pense que les évangéliques ont un rôle important à jouer là. Je ne parle pas des églises ethniques, mais vraiment des églises évangéliques telles qu'on les connaît en France, multiculturelles. Parce qu'elles ont gardé cette capacité que nous, catholiques, nous avons perdue de parler au milieu populaire. Pendant des siècles, nos églises ont été recouvertes de vitraux et de fresques qui illustraient la Bible. Par la modernité, on a rendu tout ça neutre, il n'y a plus que de l'abstraction. Et donc, on ne sait plus faire de catéchèse au milieu populaire. Les évangéliques, eux, par la manière dont ils prêchent, dont les pasteurs prêchent, dans la vie communautaire qu'ils parviennent à constituer, ils touchent encore ces milieux. Donc, ils sont dans les cités, à mon avis, fondamentaux. Parce que chrétiens, donc évangéliques, catholiques, mais aussi toutes les autres églises chrétiennes, ce sont véritablement des ferments du tissu social. C'est eux qui sont en capacité de renouer le tissu social. Justement parce qu'on a une expérience de l'universalité, on a une expérience de la dignité humaine, on a une expérience du bien commun, parce qu'on a une foi qui nous transporte vers le monde. Et donc je pense que, d'un point de vue politique, au sens le plus noble du terme, ces croyants sont essentiels à la restauration d'une vie sociale saine et belle dans ces quartiers.
Alors, on peut entendre qu'au fond, les catholiques, nous ne sommes pas forcément très, très ajustés, très bons. On a perdu un peu cette qualité de la relation avec le milieu que vous évoquez, le milieu populaire. Alors, que s'est-il passé? Comment l'Église catholique, comment les membres de l'Église catholique peut-elle, je dirais, se réapprivoiser un peu ce côté populaire, Clotilde?
Je pense qu'on vit un... Moi, je le vois vraiment dans la cité Pablo Picasso. Je pense que ce qui a fait qu'on a perdu un peu la prise, et c'est en train de revenir, hein, parce que moi, je le vois dans notre paroisse, le Mardi Gras, c'est distribution de crêpes devant l'église. Il se passe beaucoup plus de choses. Puis, il y a aujourd'hui toutes ces missions d'évangélisation, dont certaines spécifiquement pour ce type de quartier. Donc, je ne suis pas désespérée. Mais je constate quand même que, en tout cas, je le vois vraiment à Pablo Picasso, il y a deux disparitions majeures qui ont fait que l'Église catholique a un peu perdu prise sur les quartiers populaires. C'est la disparition de l'Action catholique, qui reste un petit peu, et qui s'est souvent très politisée. Mais je crois que l'Action catholique était un lieu de formation pour les catholiques. Et il n'y a plus cette formation possible pour les mieux populaires. Par la JOC, vous étiez formés. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient encore engagés à la JOC. Et pourtant, ce n'est pas une sensibilité spirituelle proche de moi. Mais je crois que l'Action catholique a été véritablement un ferment de formation et donc de soutien pour les populations les plus fragiles intellectuellement et culturellement. Donc ça, je pense. Et deuxièmement, moi, je trouve que dans notre quartier, la disparition des Sœurs du Prado. En fait, la baisse des vocations religieuses joue aussi, parce que comme il y a moins de prêtres, il y a moins de religieux, on peut être moins présent. Donc dans l'église, on essaie d'être rationnel. On se dit, il faut mieux mettre le paquet là où ça bouge encore. Bon, je pense que ça s'appelle une gestion de la faillite, mais je suis pas toujours d'accord avec ça. Mais la disparition des Sœurs du Prado a été terrible pour notre quartier, et c'est vraiment les gens de Pablo Picasso, de ma paroisse, qui m'ont expliqué ça. Ils me disent, mais il me parlait, entre autres, une de mes amies, elle me parlait d'une famille. Les gens savaient, le papa et la maman savaient pas lire et écrire, et aller voir le prêtre, c'était impressionnant. Et en revanche, aller voir les Sœurs du Prado au supermarché, quand elles faisaient leurs courses, et de leur dire « moi j'aimerais bien faire baptiser mon enfant, comment je fais ?» Elles servaient un peu de corps intermédiaire. Et aujourd'hui, on est dans une société où tous les corps intermédiaires, même d'un point de vue social et dans la structuration de notre pays, ont disparu. Et je crois que c'est intéressant de se dire « qu'est-ce qu'on peut refaire dans l'église comme type de corps intermédiaire ?» Et l'exemple typique, c'est les patronages. Les patronages sont des nouveaux corps intermédiaires, à mon avis, parce qu'ils permettent à des gens d'entrer dans l'église, des gens du seuil d'entrer dans l'église. Et c'est quelque chose de stable, contrairement aux missions d'évangélisation, où vous venez puis vous renvoyez vers la paroisse et vous voyez, vous revenez directement. En fait, c'est un lieu où vous pouvez envoyer vos enfants. C'est chrétien, catho. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement catho. Moi, je connais des prêtres qui ont des patronages où la moitié des petits-enfants sont musulmans. Et en fait, c'est facteur de lien social. C'est pas que spirituel, encore une fois.
Alors ces facteurs aussi au fond de ce mouvement de vie, de dynamique et de faire corps avec ses membres dans la diversité. Vous parlez, vous revenez, vous l'aimez votre paroisse, paroisse. Oui. Est-ce que cette paroisse, c'est un peu aussi le cœur qui vous dynamise, redynamise tout le temps pour être éclairé sur les bons choix aussi au fond et les bonnes orientations et puis booster toujours et aller plus loin dans cette réflexion entre finalement la société, le monde, la communauté, la cité. En fait, c'est une école de la vie, de formation pour vous, cette paroisse dans laquelle vous êtes aujourd'hui engagé.
Elle a ses fragilités, hein, et elle n'est pas très douée en liturgie. Là, je pense que les choses peuvent changer. Voilà,
elle a peut-être d'autres capacités.
Et parfois, je vais ailleurs à la messe parce que la vie fait comme ça. J'emmène mes enfants, ma dernière post-scoutisme. Mais il se passe quelque chose de toujours. Souvent, parfois, je me dis, la messe, c'est plus belle. Mais c'est pas ma famille. En fait, j'ai une amie qui dit beaucoup que la paroisse, c'est le dernier lieu où on rencontre les connards qu'on n'a pas choisis. Elle a raison, dans le milieu professionnel, on rencontre des gens à peu près équivalents. Nos réseaux d'amis, comme les réseaux sociaux, sont des algorithmes qui nous font rencontrer que des gens qui nous ressemblent. Et dans la paroisse, c'est là où on rencontre l'altérité. Alors moi, dans la paroisse, il y a des gens qui sont connards, mais j'en suis certainement une pour d'autres, une pour les autres. Mais c'est ma famille. Et il y a une véritable vie de famille dans cette paroisse qui nous a accueillis, nous, les deux bons petits bourgeois, avec mon mari. Et je me souviens, le premier jour, on est arrivé. Il y avait Jacques, que je cite, et qui a quitté la paroisse parce qu'il était, il a déménagé, qui a dit « Oh, des nouveaux, allez, apéritif !» Vous pouvez pas aller voir dans une autre paroisse ailleurs après ça, si c'est mieux. Vous êtes, ça y est, vous avez, les liens sont là. Donc voilà, d'abord, c'est ma famille. Et en plus, c'est le lieu où le réel me rattrape tout le temps. En fait, par la vie sociale, par la vie des uns et des autres. Voilà, c'est le lieu où, par exemple, pendant le confinement, quand il y avait des émeutes à Pablo Picasso, je me souviens d'avoir une catéchiste au téléphone et qui je lui dis « Comment ça se passe ?» Moi, ça me va très bien, je dors pas bien la nuit, mais au moins, ils mettent pas le bazar dans les garages, donc demain, ma voiture aura pas brûlé, j'en suis certaine. Quand ils mettent le bazar dehors, voilà. C'est le réel de beaucoup de gens. Et moi, je viens d'un milieu plutôt favorisé. Mes parents ont toujours eu un engagement social, donc je pense que cette fibre, elle vient de là. Mais c'est le lieu de la réalité. Et une ou deux fois, on raconte des histoires comme ça de la paroisse. Et en famille, et ma dernière, à l'époque, devait avoir 8 ans, elle me dit « Maman, ça, c'est la vraie vie. » Et je crois que c'est la vraie vie. Je crois que moi, je ne suis pas vraiment dans la vraie vie. Je fais partie des gens les plus aisés de France. Voilà. Alors, il y a des gens beaucoup plus riches que moi, mais c'est la vraie vie pour beaucoup. Et donc, voilà, c'est l'emprise dans le réel. Et puis, si là, il y en a qui vont m'écouter, je suis sûre qu'à dimanche, à la messe, je t'ai entendu, tu n'as pas été bonne, ou tu as été bonne, mais tu n'as pas dit ça. Et voilà. Et j'aime bien, en fait. J'ai à la fois une immense responsabilité, parce que moi, je peux parler pour eux. Donc, c'est une immense responsabilité. Mais tous, j'ai envie d'en citer 50, mais Christelle en particulier, ce sont des gens qui me forment tous les jours.
Et moi, ce que j'entends, et merci, je l'ai annoncé, vous parlez avec le cœur aussi, vous parlez avec en vérité, et on entend, et puis moi je vois aussi, l'expression du visage, hein, les auditeurs entendent une voix, mais dans la voix aussi on entend, je dirais, tout l'engagement et la sincérité, voilà.
Mais j'ai été responsable à la pastorale des enfants, et il y a des jours où cette paroisse m'a vraiment pris la tête.
Il y a ces hauts et ces bas, vous parlez d'une famille, c'est exactement ça, la famille, hein, on peut tout se dire.
Exactement.
Oui. Soyons vrais. Alors, vous êtes vrai et je vous propose de vous retrouver demain et ça sera un quatrième épisode. On rencontre un peu la femme que vous êtes aujourd'hui, une femme qui rappelle à chacun de nous combien il est important aujourd'hui, hein, de ne pas avoir peur de s'engager à sa juste place, bien sûr. Et puis un engagement aussi, je voudrais vous faire parler des gilets jaunes. Ces gilets jaunes sont aussi une vraie expérience. À demain, même lieu, même heure.